Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Lily Flore, artiste peintre et professeure de peinture et créativité. Aujourd'hui, dans cet épisode, on va parler d'émotions. C'est une question que j'ai souvent. Comment on fait pour faire passer une émotion dans une toile? Comment on fait pour exprimer une émotion? Comment on fait ressentir une émotion sur une toile? Donc, c'est sûr que, vous l'aurez compris, je ne vais pas vous donner une formule magique, hein, sinon je serais déjà millionnaire. Mais on va creuser cette question-là ensemble. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous rappelle que vous allez retrouver beaucoup d'informations sur mon site web lilyflore.ca. Vous pouvez également recevoir des cadeaux si vous vous inscrivez sur ma liste d'envoi qui s'intitule Osez devenir l'artiste en vous. Tout ça, c'est sur lilyflore.ca. Et d'ailleurs, ce podcast, ce balado, se retrouve également sous forme d'articles écrits. Donc, si vous préférez la lecture, eh bien, vous pourriez tout simplement aller le lire sur mon site web. Donc voilà, ça c'est dit. On rentre dans le vif du sujet. Comment peindre une émotion sur une toile? Il y a plusieurs raisons pour lesquelles on commence la peinture et pour lesquelles on aime la peinture. Ça peut être un simple passe-temps ou ça peut être carrément même une vraie thérapie en profondeur. Ou un peu des deux finalement. Dans tous les cas, ça nous aide à nous évader des tracas du quotidien. Et je me suis rendu compte que rapidement, passé le simple plaisir de peindre, eh bien on cherche à exprimer quelque chose d'un petit peu plus grand sur nos toiles. Et souvent, c'est cette fameuse question d'arriver à peindre une émotion qui devient quasiment un besoin vital pour l'artiste. Mais comment on fait pour exprimer nos émotions avec notre pinceau ou notre spatule? Et surtout, comment les faire ressentir à quelqu'un qui va observer notre toile? C'est quand même un sacré défi. Et dans cet épisode aujourd'hui, eh bien, je vais vous parler de quelques pièges à éviter, excusez-moi, ainsi que quelques solutions que je vous propose d'expérimenter pour résoudre ce mystère des émotions sur la toile. Alors tout d'abord, peindre une émotion, ça veut dire quoi? J'aime bien toujours commencer de cette façon-là pour essayer de dégrossir un petit peu le sujet, pour être sûr qu'on parle de la même chose. Quand on pense à peindre une émotion, il y a en fait deux questions différentes à aborder que j'ai un peu dit pendant dans l'introduction. La première question, c'est comment peindre en effet cette émotion? Et ensuite, comment faire pour que ce qu'on peint fasse ressentir une émotion par l'observateur de la toile? Et ça, même si c'est nous, c'est-à-dire même si c'est juste nous qui regardons la toile, il faut qu'on puisse ressentir cette émotion-là. Alors, quand on se pose cette question, donc de peindre une émotion, il y a comme ces deux aspects-là. Et il y a un gros, gros piège qui nous tend les bras. C'est le piège classique de vouloir plaire aux autres. Parce que dès qu'on a une trace qui reste, comme la toile, on se met tout de suite de la pression pour que cette trace plaise aux autres. Et lorsqu'on souhaite créer une émotion sur la toile, le piège est exactement le même. On pense aux autres et à ce qu'ils vont ressentir ou non en regardant notre toile. Sauf que voilà, si on a déjà de la difficulté à exprimer clairement nos émotions à nous, comment on peut envisager sérieusement d'arriver à exprimer celles que les autres vont ressentir? C'est quand même compliqué. Moi-même, étant une empathe hypersensible, je ressens énormément les émotions des autres. Je ressens beaucoup l'énergie, leur énergie qui me traverse, mais sincèrement, je me sentirais vraiment incapable de les exprimer clairement. Parce que ressentir une émotion et exprimer une émotion, c'est deux choses différentes. Donc on est face à un défi de taille quand on veut faire ressentir une émotion. Et c'est pour ça que je veux vraiment parler de ces deux éléments-là qui sont comme complémentaires. Peindre une émotion, faire ressentir une émotion. Donc, on est dans une situation où finalement on veut exprimer une émotion grâce à la peinture, qui est déjà un premier défi. Et en plus, on ajoute un deuxième défi qui est que cette expression de mon émotion, il faut qu'elle fasse ressentir une émotion à quelqu'un d'autre. C'est quand même une attente qui est hyper élevée, là, faut l'avouer. Alors, ma solution, entre guillemets, pour faire ressentir une émotion aux autres grâce à votre toile, c'est plus une question d'attitude. Je m'explique. On est tous différents. C'est vrai. Mais si on y regarde de plus près, on a également énormément de points en commun. Et c'est la même chose pour les émotions. Il y a des gens qui vont ressentir des émotions similaires face à une situation similaire. Et d'autres complètement différentes. Par exemple, vous donnez une image à certaines personnes et ces personnes-là vont être, par exemple, attendries par l'image. Et la même image, vous la donnez à d'autres personnes, puis ces personnes-là vont être choquées. Ou alors, d'autres personnes encore, vous donnez, ils vont être complètement indifférents. Ils vont, ça les touche pas du tout. Donc, si vous, vous êtes du genre à vous faire attendrir par cette image, et que vous demandez à quelqu'un qui est comme la personne qui est choquée facilement, ben, vous n'aurez pas du tout le même ressenti. Alors, c'est compliqué quand on peint et qu'on peint nous en fonction de nos émotions, ben, suivant à qui on demande en face de nous, la personne ne va pas forcément ressentir la même émotion. Alors, comment on fait? Comment on fait le tri? Comment on peut savoir qui a raison, entre guillemets? Eh bien, la solution, elle est simplement de vous brancher à votre émotion, à vous. D'apprendre à exprimer vos ressentis. Et de faire confiance que votre toile attirera ensuite les personnes qui sont branchées comme vous. Autrement dit, il ne faut pas essayer de ramener tout le monde. Il faut ramener les gens qui ont le même genre d'émotion que vous face à une image. Alors, c'est sûr, on ne peut pas le savoir, et c'est pour ça que c'est important, quand vous peignez, de ne pas vous faire confiance aux émotions des autres, mais bien aux vôtres. Centrez-vous sur vous, sur vos émotions. Je mettrai quand même un petit bémol, une petite note par rapport à ce que je viens de vous dire, c'est que ce conseil, il est vraiment lié à une pratique artistique qui n'est pas commerciale. Parce que si vous peignez pas sur commande, pour quelqu'un vous passe une commande, ou si vous peignez pour vendre facilement des choses qui sont à la mode ou qui fit dans qui fonctionnent bien dans un salon ou des choses comme ça, c'est sûr que vous n'aurez pas le choix de vous brancher un petit peu sur les émotions de vos clients. Hein, parce que ben, vous êtes dans une pratique commerciale, donc le besoin de celui qui va acheter, ça c'est comment dire, c'est important. Donc, quand je vous dis branchez-vous simplement sur vos émotions, c'est pour une pratique artistique qui est non commerciale. Par contre, dans tous les cas, même dans une pratique commerciale, si jamais vous-même, vous ne ressentez aucune émotion face à votre toile, bah, il y a quand même peu de chances que votre client soit satisfait puis qu'il ressente des choses intéressantes. Donc, c'est quand même présent dans une pratique commerciale, mais disons que ça prend peut-être moins de place. Alors, c'est bien beau de dire qu'il faut être capable de se connecter à ses émotions pour les exprimer mieux, mais là, il va y avoir une autre question. C'est tout simplement comment développer votre propre connexion émotionnelle. Parce que c'est pas facile d'exprimer clairement ses émotions en peinture. Juste quand on parle, alors qu'on parle depuis toute petite, on a de la difficulté à articuler nos ressentis. On a de la difficulté à exprimer nos émotions. Alors qu'on parle depuis tout petit. Alors, même si les peindre pourraient paraître plus faciles pour les personnes comme moi qui sont visuelles, peut-être plus facile que de parler, ça reste que le défi est grand. Parce que c'est pas facile d'exprimer une émotion clairement. Il va y avoir un piège, un premier piège par rapport à ça, c'est le piège de l'obsession sur le résultat. Vous allez voir, je suis sûre que vous allez vous reconnaître là-dedans. Là. En peignant, si la toile ne vous fait pas ressentir ce que vous souhaitez, il vous arrive peut-être de vous obstiner. Moi, ça m'arrive. Et alors, à ce moment-là, la frustration arrive assez vite. Sauf que si vous souhaitez que votre toile exprime, par exemple, la douceur d'un moment partagé, comment voulez-vous arriver à peindre ça si vous êtes toute stressée et frustrée parce que le résultat n'est pas comme vous voulez? C'est impossible. C'est pour ça que ça va être important de prendre du recul et de se replacer dans une situation qui nous permet de revenir à l'émotion recherchée. En bref, il faut revenir à un état qui correspond à ce que vous voulez peindre. Il faut vous reconnecter avec des émotions positives. C'est pas facile à faire, c'est un entraînement. On va voir des petites choses par la suite encore là, dans cette séance-là pour mieux le faire. Mais sachez que pour ceux qui habitent dans les Laurentides au Québec, eh bien je donne des cours qui sont axés toujours, oui, il y a une part technique, mais toujours sur cette partie-là de se connecter à nous-mêmes, à nos émotions. Au moment d'ailleurs où j'enregistre ce balado ou ce podcast, comme vous voulez, eh bien je propose à la fin du mois d'août, dans les Laurentides, une semaine immersive de peinture où on va justement s'intéresser à cette partie-là des émotions. Entre autres, hein, parce qu'on va couvrir beaucoup de choses. Alors, comment on fait pour se reconnecter avec nos émotions sans se frustrer et trop travailler sur notre toile? Parce que dans le fond, si on est dans l'obsession du résultat, ben on se frustre et là, ben, notre émotion, elle s'envole. Mais vu que notre toile, elle est pas où, elle va pas où on veut qu'elle aille, ben, faut trouver une autre technique. Moi, personnellement, je vais vous partager les petits trucs que j'ai et puis prenez ce que vous voulez, laissez ce que vous voulez. Le premier truc que j'aime beaucoup et je suis pas mal sûre que vous êtes nombreuses à avoir le même truc, c'est la promenade en nature, tout simplement. Ça m'aide à revenir à l'essentiel. J'aime beaucoup d'ailleurs les petites citations suivantes. Il y en a une qui dit quelque chose du genre, il est impossible de rester énervé longtemps lorsque l'on se promène dans le bois. C'est vrai, hein? Je sais pas, il y a quelque chose qui se passe là, puis on se reconnecte beaucoup plus facilement quand on se promène dans le bois. Une autre citation que j'aime beaucoup qui dit, même s'il n'y a pas le Wi-Fi dans la forêt, le Wi-Fi en France, c'est l'endroit où la connexion est la meilleure. J'aime beaucoup. Même s'il n'y a pas le Wi-Fi dans la forêt, c'est l'endroit où la connexion est la meilleure. Je ne sais pas de qui sont ces citations. C'est des choses que j'ai vues passer un peu sur Internet que je trouve vraiment très très bonnes. Dans le fond, maintenant, j'habite à la campagne, mais même lorsque j'habitais en ville, j'allais me promener dans un parc, tout simplement. Mon préféré à Montréal, c'était le parc Maisonneuve. Il y a entre autres aussi le jardin botanique, qui m'a vu déambuler de nombreuses fois, ça c'est certain. Et je parlais même aux écureuils, c'est pour vous dire. Je suis pas la seule, hein, à parler aux écureuils. Et ça me mène à mon deuxième truc d'ailleurs pour apprendre à se reconnecter le plus possible à nos émotions. Pour moi, c'est l'observation des animaux. C'est un peu dans le même ordre d'idée que se promener en nature, dans le fond. Moi là, observer un animal, ça me rend heureuse. Ça me rend sereine. Ça me permet de m'ancrer dans le moment présent et ça me permet de bien me connecter à mes émotions. J'aime bien dire qu'à Montréal, le prix d'entrée du biodôme, ben, c'est moins cher qu'une séance chez le thérapeute. Et moi, ça marche tout aussi bien, si ce n'est mieux. Fait que si vous n'êtes pas à Montréal ou dans le coin, ben, ça peut être si vous êtes à la campagne. Moi, j'habite maintenant dans les Laurentides. Alors, j'observe mon chat, j'observe les écureuils, les oiseaux. Ou alors, j'observe mon chat qui est en train d'observer les écureuils et les oiseaux. Puis, je vois des renards, des cerfs, des orignaux quand je suis chanceuse. Toutes sortes d'animaux. Vous pouvez aussi aller dans un zoo si vous en avez un pas loin. Ou regarder même regarder un documentaire animalier. Ça peut vraiment aider à se reconnecter à des choses essentielles qui sont à l'intérieur de nous et à se reconnecter à nos émotions. Là, je vais passer à mon troisième truc qui va peut-être plus vous parler de façon concrète, parce qu'on s'entend que bon, promener dans la nature, observer les animaux, c'est sûr que ça aide énormément, mais de façon très concrète pour avancer par rapport à votre toile, ça va être l'écriture libre pour se vider la tête. L'écriture libre, c'est quoi? C'est une forme d'écriture sans jugement. Sans jugement des autres, mais sans jugement de soi-même non plus. Écrivez en vous dégageant des règles de la grammaire et de l'orthographe, on s'en fiche. Si vous faites des fautes, c'est pas grave. Oubliez les majuscules, mettez pas de points. Le but, c'est simplement d'écrire ce qui danse dans votre tête. Dans un premier temps, vous pouvez évacuer les émotions négatives, par exemple, et ensuite, vous pouvez commencer à rechercher des mots ou des bouts de phrases qui vous font du bien. Vous pouvez aussi vous poser des questions qui sont importantes pour vous, pas pour les autres, pour vous, pour vos émotions, et y répondre en écrivant spontanément, même si ça a l'air complètement fou. En bref, donnez-vous un espace de liberté absolue avec cette écriture libre. pour exprimer tout ce qui se passe dans votre tête, que ce soit bon ou pas. Attention, c'est une écriture libre, alors ne vous limitez pas. Si vous avez envie d'écrire un truc complètement fou, comme « Ah bah tiens, je vais faire une blague au voisin, je vais courir toute nue dans la cour, un jour de pluie, avec des plumes sur la tête », bah si vous avez envie d'écrire ça, écrivez-le. Ça ne veut pas dire que vous allez le faire, j'espère pas, mais écrivez-le. Si ça vous fait bien de l'écrire, soit parce que ça vous fait rire, soit parce que ça vous pensez dans votre tête que ça serait comme une bonne vengeance sur votre voisin parce que la dernière fois il a fait du bruit, bah écrivez-le. Même si vous le faites pas, faites-le pas, en tout cas ce que je viens de vous donner comme exemple, mais écrivez-le. Laissez-vous la liberté d'écrire tout ce que vous voulez. C'est vraiment, c'est le but de cet exercice, c'est de vous libérer de cette prison du ce qu'il faut dire, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut penser que la société nous impose, que la vie en société nous impose. Quand vous vous libérez de cette prison-là, eh bien, ça va être plus facile de vous connecter avec vos émotions personnelles. C'est d'ailleurs quelque chose que je propose souvent à mes étudiants de faire de l'écriture et dans la semaine immersive qu'on va faire à la fin août, on va faire des exercices de cette nature-là pour se reconnecter à soi. C'est super important parce que si vous voulez apprendre à peindre une émotion ou à faire ressentir une émotion sur une toile et que vous n'êtes pas capable de vous connecter avec vos propres émotions, comment voulez-vous y arriver? Ça ne marchera pas. Il faut aller à la base. Il faut être capable d'abord de se connecter avec ses émotions pour être capable de les faire ressentir à quelqu'un d'autre. Les peindre et les faire ressentir à quelqu'un d'autre. Donc, c'est important de travailler ça. On pense qu'il faut juste apprendre la technique. On va en parler un petit peu plus tard. Bah, d'ailleurs, on va en parler tout de suite. La maîtrise technique. Est-ce que ça aide à peindre une émotion? Parce que dès qu'on parle de peinture, moi, ce que j'entends, c'est « je ne maîtrise pas, je ne sais pas dessiner, je ne suis pas douée. » Ou alors, j'entends des choses du genre « Ah, je suis très bonne pour copier, je suis très bonne en technique, mais je n'arrive pas à créer quelque chose de personnel. » Ou « J'aimerais maîtriser suffisamment pour être capable d'exprimer des émotions sur ma toile. » Ou bien « J'aimerais être bonne techniquement pour que le résultat plaise aux gens. » C'est plein de choses que j'entends. Et là, il y a un piège énorme dans lequel presque tout le monde tombe. C'est de penser que la technique et la maîtrise parfaite sont la solution à tous nos problèmes face à notre toile. C'est de penser que si on maîtrise la technique parfaitement, alors on saura exprimer toutes les émotions qu'on veut et faire ressentir une émotion sur toute notre toile. Ça, c'est vraiment un piège. Attention, je ne dis pas que la technique n'aide pas du tout. Ça va aider. Je dis simplement qu'elle n'est pas la solution. La technique va être simplement une partie de la solution. Et en plus, suivant le style que vous avez, ça peut être une partie plus ou moins grande. Je vais vous donner une petite analogie. J'aime bien les analogies. Si vous prenez un bébé qui ne sait pas encore parler. Moi, j'ai travaillé pendant plus de 10 ans avec les jeunes enfants en tant qu'éducatrice. Donc, j'ai appris beaucoup, beaucoup, notamment avec les bébés. Lorsqu'un bébé ne sait pas parler, c'est difficile pour lui d'exprimer ses émotions ou ses envies. Alors, souvent, ça va le frustrer et il va se mettre à pleurer. L'adulte, l'éducatrice ou le parent va alors essayer de décoder, va comprendre quelque chose qui ne va pas, il va essayer de déchiffrer ce que c'est et de deviner ce que le bébé tente d'exprimer. Ben, en peinture, lorsqu'on manque de technique, c'est un petit peu la même chose. On veut exprimer quelque chose, mais comme on ne maîtrise pas encore le langage de la peinture, ben, on n'y arrive pas. Sauf que, contrairement à l'éducatrice qui va essayer de deviner, de déchiffrer ce que le bébé veut faire, veut dire, veut partager, ben, l'observateur d'une toile, lui, il ne fera pas l'effort de deviner, il va juste passer son chemin et il va rester indifférent. Alors, comment on va faire pour réussir à communiquer nos émotions en peinture et au niveau technique, je parle. La première option, c'est la patience et la persévérance. C'est-à-dire que tout comme le bébé va prendre le temps pour apprendre à parler, apprendre à s'exprimer clairement, l'artiste va devoir prendre le temps d'apprendre le vocabulaire de la peinture. Et elle va devoir être patiente, parce qu'à force d'apprendre les bases, il lui sera plus facile d'en maîtriser le langage complet. Mais voilà, un enfant, puis je dis un enfant, mais en fait même un adulte qui sait parler, même très correctement, très bien, aucun problème, bah va quand même, cet enfant ou cet adulte va quand même avoir de la difficulté à exprimer ses émotions. Parce que la maîtrise technique ne garantit pas de pouvoir transmettre une émotion. Ça va la faciliter à un moment donné, mais ça ne va pas la garantir. Donc, pour peindre une émotion, c'est pareil. Que ce soit pour parler ou pour peindre, c'est pareil. Quelqu'un qui maîtrise le langage pourra très bien ne pas être capable de transmettre son émotion. Puis, quelqu'un qui maîtrise la peinture pourra très bien ne pas être capable de peindre une émotion. Donc, moi, j'aime bien l'option 2. Je vous ai dit, il y a deux options, être patient et persévérante. Et l'option 2, c'est de trouver des alternatives. Par exemple, en pouponnière, quand je travaillais avec les bébés, ça nous arrivait aux éducatrices d'apprendre des signes simples aux bébés pour communiquer. C'est en fait un langage des signes des bébés qui existe. Et ce langage, ça permet à l'enfant de s'exprimer avec quelques gestes de base. Et l'enfant va pouvoir se faire comprendre par l'adulte. Il n'y a pas de frustration, tout le monde comprend. Il n'y a pas de pleurs, tout le monde y gagne. Et bien, en peinture, lorsqu'on ne maîtrise pas une technique, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autre façon de peindre ce que l'on souhaite. Ça va être alors super important de ne pas se frustrer ou de se décourager, mais plutôt d'essayer de chercher une façon créative et plus simple techniquement d'exprimer ce que vous aimeriez. Bien sûr, ça n'empêche pas, en parallèle, de travailler la fameuse technique que vous ne maîtrisez pas pour être un jour capable de l'utiliser. Tout comme le bébé qui s'entraîne à parler, tout en continuant d'utiliser le langage des signes en attendant. Donc, la technique, oui, mais pas de façon obsessionnelle jusqu'à se frustrer, se décourager parce qu'on n'y arrive pas. Si on se rend compte qu'il y a une technique qui est hors de notre portée, cherchez des choses alternatives, de la spontanéité, d'autres techniques que vous connaissez que vous pourriez peut-être changer un petit peu pour arriver à exprimer ce que vous voulez. Donc, soyez créatifs, dans le fond, pas seulement par rapport à votre toile, mais par rapport aux techniques que vous utilisez. C'est super important. Et ça nous amène à, on va dire, la dernière partie de cette séance-là, par rapport au fait de peindre une émotion. La question d'être différent des autres. Est-ce nécessaire de peindre différemment des autres pour créer une émotion? Ça, c'est une question que j'ai souvent aussi. On me demande, c'est pour être différent, pour se démarquer, etc., etc. Fait que je trouvais important d'en parler par rapport aux émotions. Parce que quand vous commencez à être... Disons que vous êtes habile à vous connecter à vos émotions, vous avez fait le travail que je vous ai proposé avant, c'est quelque chose que vous maîtrisez. Vous prenez aussi le temps de développer des bases techniques de la peinture, vous êtes capable d'avoir des techniques plus simples, plus créatives qui vous permettent d'exprimer ce que vous voulez. Sauf que là, vous vous rendez compte qu'il y a énormément de choix à faire. Vous avez un choix de couleur, un choix de forme, un choix de gestes, les compositions, les textures. Il y a énormément de choix à faire pour décider de comment vous allez exprimer votre émotion. Alors, la seule façon de savoir quels sont les choix qui sont pour vous, qui sont faits pour vous, c'est de les expérimenter. Il n'y a pas de formule magique, parce qu'un choix pour un artiste, qui est un très bon choix, pourrait être un très mauvais choix pour un autre artiste. Donc c'est vraiment l'expérimentation qui va vous aider. Mais là, encore, un piège terrible se présente à vous. Le piège de la quête de l'originalité. Beaucoup d'artistes me disent qu'elles veulent être originales. Et en faisant cette recherche d'originalité à tout prix, souvent, elles perdent de vue leurs émotions. Parce qu'elles sont tellement avec l'idée qu'il faut être original qu'elles oublient qu'à la base, elles voulaient peindre une émotion. Ça, c'est... Vraiment, c'est le piège... Le piège, dans le fond. C'est terrible comme piège. Moi, je vois des gens qui se noient dans cette quête de l'originalité et il n'y a plus du tout de spontanéité. C'est peut-être original, mais c'est pas intéressant. Dites-vous d'ailleurs que cette recherche de l'originalité, c'est pas un besoin artistique. C'est plutôt une obligation imposée par le marché. Soit le marché de l'art, parce que si c'est original, c'est rare, donc on peut le vendre plus cher. Ou encore, parce que j'appelle le marché culturel, parce que, en gros, quand on parle de culture, on dit que c'est pas lié à l'argent, sauf que, à date, tout ce qui est la promotion de la culture, c'est soit pour attirer des touristes, et donc pour faire des sous, soit pour qu'un artiste ait des subventions, donc qui ait des sous. Mais pour qu'un artiste ait des subventions, il faut que son art plaise et attire du monde. Donc, si ça plaît pas, que ça attire personne, il n'y aura pas de subvention. Donc, c'est quand même lié à l'argent. Donc, c'est les marchés, vraiment, de l'art, le marché culturel. Mais si vous, votre but, là, c'est pas de rentrer dans le marché de l'art ou le marché culturel, et que c'est de vous faire du bien et d'arriver à exprimer une émotion sur le plan artistique et personnel, ben, détachez-vous de cette quête de l'originalité, laissez-la de côté. Mais là, vous allez me dire, OK, mais comment je fais si je veux pouvoir me démarquer un petit peu? Eh bien, rappelez-vous que vous êtes différente de tout le monde sur cette planète. Même des jumeaux identiques sont différents. Alors, il vous suffit d'être vous-même et forcément vous serez différente. Alors peut-être que vous ne serez pas aussi différente que ce que les marchés voudront, mais vous serez honnête parce que vous serez vous-même. Et ça va se ressentir dans vos œuvres. Une œuvre originale, ça ne perdure pas dans le temps, ça ne sera plus original dans le temps. Les impressionnistes, ils étaient originaux à l'époque, maintenant, bah, y a plein de gens qui peignent comme les impressionnistes. Par contre, une œuvre authentique et honnête restera puissante, quelles que soient les époques. Donc c'est ça qu'il faut viser, l'authenticité, l'honnêteté. Soyez vous-même. Si vous aimez lire d'ailleurs, je vous invite à lire ou à relire le livre des souris et des hommes de John Steinbeck. Je l'ai relu il n'y a pas longtemps et je trouve que bah, c'est un chef-d'œuvre littéraire. Et ça illustre très très bien mon point parce que c'est un roman très court, très simple, mais criant de vérité, d'authenticité, d'honnêteté, d'émotion. J'ai pleuré à la fin, là. En tout cas, relisez-le. Je sais que c'est pas une chronique spécialement littéraire, mais ce livre-là, c'est un joyau, c'est une perle. Alors, en résumé, pour peindre une émotion, il faut apprendre à mieux s'écouter. Je sais, il y en a peut-être qui vont se dire, ah, oh, ben là, je pensais qu'elle allait donner des trucs techniques, mais comme je vous dis, là, si j'avais une recette magique, là, je serais déjà millionnaire, je la vendrais à tout le monde, puis tout le monde arriverait à peindre ses émotions. C'est plus complexe. Donc, il faut être prêt à faire des efforts pour arriver à ça. Donc, en résumé, il va y avoir des efforts au niveau émotionnel à faire. Apprenez à faire confiance à vos émotions. Exprimez-les librement, sans penser aux autres. Vous allez alors attirer des personnes qui auront la même sensibilité que vous. Rien ne sert de vouloir plaire à tout le monde. De toute façon, c'est impossible, donc ayez ça déjà. Travaillez sur votre propre connexion émotionnelle. L'écriture libre, comme je vous le disais, très bon outil pour cela. Vous verrez qu'après, ça va être plus facile. Quand vous aurez travaillé sur votre propre connexion émotionnelle, ça sera plus facile pour vous de peindre une émotion ensuite. Au niveau personnel, ne cherchez pas à être différente, cherchez à être vous-même. Ça va donner de la puissance et de l'authenticité à vos toiles et aux émotions qui sont véhiculées par vos toiles. Et enfin, au niveau technique, vous avez plusieurs outils techniques à votre disposition. Alors, si jamais votre niveau technique n'est pas suffisant pour un projet, apprenez à reconnaître ce que vous savez déjà plutôt que de vous frustrer sur ce que vous ne savez pas encore. Utilisez alors ce que vous connaissez déjà de façon créative. Et en parallèle, développer le reste pour pouvoir avoir encore plus d'outils pour le prochain projet. Donc, voyez ça comme des étapes successives, plutôt que comme tout de suite un marathon, et tu sais, genre un gros marathon, là. Allez-y pas à pas. Alors, le mot de la fin, rappelez-vous que si vous souhaitez faire ressentir une émotion grâce à vos toiles, il va falloir travailler sur votre connaissance de vos émotions. Parce que si on veut faire ressentir une émotion puis qu'on travaille sur la technique, bah, il n'y a pas une adéquation. La technique, la maîtrise technique, ça ne va être qu'un outil et non une solution miracle. Face à votre toile, au lieu de vous dire qu'est-ce que je peux améliorer pour que ce soit réussi, demandez-vous plutôt qu'est-ce que je ressens face à ma toile et qu'est-ce que je peux changer en termes de couleur, de forme, de composition, de texture, de lumière, afin d'amplifier cette émotion. Je vais la répéter cette question-là à vous poser devant votre toile parce qu'elle est très importante. Qu'est-ce que je ressens face à ma toile et qu'est-ce que je peux changer en termes de couleur, forme, composition, etc., afin d'amplifier cette émotion, ce ressenti? Et là, vous verrez que vous aurez des pistes bien plus claires sur ce que vous pourrez faire pour peindre une émotion. Voilà, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre écoute. Je vous rappelle que sur lilyflore.ca, vous allez retrouver l'article complet. Vous pouvez également vous inscrire sur ma liste d'envoi. Comme ça, vous allez recevoir toutes ces nouvelles inspirations, motivations directement dans votre boîte mail. N'hésitez pas à me poser vos questions ou à me partager vos ressentis ou vos expériences par rapport aux émotions. Parce que moi j'ai toujours un grand plaisir à vous lire et puis c'est dans l'échange qu'on grandit. Moi je grandis beaucoup grâce à mon blog parce que je reçois des témoignages de votre part et ça m'aide beaucoup. Et d'ailleurs cet épisode et cet article que j'écris sur les émotions, c'est suite à quelqu'un qui m'a posé une question je pense. Donc vous voyez, on fait ça ensemble finalement. Je fais pas ça toute seule dans mon coin. Vous êtes avec moi tout le temps. Et merci pour ça, ceux qui sont intéressés. Au moment où j'enregistre ce podcast, je vous dis, je fais une semaine immersive à la fin août dans les Laurentines, en 2022. Normalement, c'est quelque chose qui devrait se refaire chaque année, fait qu'hésitez pas à me contacter pour me poser des questions. Je vais tâcher de mettre le lien quelque part aussi, si jamais vous voulez tous les détails. D'ici la prochaine fois qu'on se voit, qu'on s'entend, qu'on se lit, eh bien, comme d'habitude, osez devenir l'artiste en vous. Bye!